l'initiative locale avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Une première canicule fin mai, une deuxième en juin et une autre en juillet. La France étouffe et peine à trouver sa respiration entre ces épisodes climatiques extrêmes. Et en première ligne, les travailleurs et parmi eux, le personnel soignant des hôpitaux. Au centre hospitalier du Mans, les agents souffrent, au point que le syndicat Force Ouvrière a déposé pendant la canicule de juin un danger grave et imminent, une alerte qui doit permettre une procédure de droit de retrait. Alors quelles sont concrètement les conditions de travail du personnel hospitalier pendant ces épisodes de forte chaleur et quelles conséquences sur la santé publique? Nous sommes avec Marc Gandon, secrétaire du syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier du Mans. Bonjour Marc Gandon.
Bonjour.
Alors d'abord qu'on mesure bien la gravité de la situation, le dépôt d'un danger grave et imminent ou DGI, on l'abrégera comme ça par la suite, est-ce que c'est quelque chose qui se produit régulièrement ou bien c'est exceptionnel?
Bah écoutez, ça reste exceptionnel, surtout pour ce quoi on l'a mis. En fait, on a des collègues qui sont tombés. C'est-à-dire que à cause de la chaleur, on a eu de multiples personnes qui se sont retrouvées mal. Et pour nous, on s'est dit, voilà, on passe dans un niveau de température qui ne permet plus de travailler normalement.
Et ces personnes qui sont tombées, c'est des personnels de l'hôpital ou c'est des patients?
Alors, ce sont des hospitaliers, parce que l'hôpital, ce ne sont pas que des soignants. Vous avez des gens qui travaillent en cuisine, qui travaillent en blanchisserie, des gens qui sont dans des camions tous les jours. Et en fait, les premiers impactés, ça a été les gens du technique, c'est-à-dire les gens qui sont dans des camions qui ne sont pas climatisés. Quand vous êtes dans une blanchisserie qui produit elle-même de la chaleur dans de vieux bâtiments non climatisés, rafraîchis certes, mais non climatisés, les cuisines également, si vous voulez, ça a provoqué des malaises qui auraient pu, être graves, parce que quand vous tombez, c'est une chose, mais si vous tombez sur quelque chose, vous pouvez réellement vous blesser. De surcroît, les températures excessives aussi dans les services pour les personnels de soins, pour le coup, quand vous travaillez avec des températures supérieures à 32, voire 33 degrés, il faut savoir qu'une infirmière, une aide-soignante, elle manipule des patients, elle a des efforts physiques, des efforts de concentration également, parce que quand vous préparez un médicament avec des dosages particuliers, il faut être concentré, et que cette chaleur a amené une fatigue très importante qui, derrière, peut engendrer malheureusement des erreurs qui pourraient avoir des conséquences sur les patients.
Alors, quelle réponse de la direction vous a été faite alors après ce dépôt de danger grave et imminent?
Alors, écoutez, nous, dès le mois de mai, on s'était inquiétés déjà de la première canicule. Avant la deuxième, et vu l'alerte de Météo France, on s'était permis d'envoyer un mail à la direction leur demandant notamment de commencer à prendre des décisions sur les aménagements d'horaires, sur les fréquences des pauses, sur la mise en place de ventilateurs, mettre en place aussi des stores. En fait, on n'a pas été spécialement pris au sérieux. Et en fait, à la canicule de juin, on s'est retrouvé, et c'est les collègues qui le disent, un peu comme au Covid. C'est-à-dire qu'on a eu le sentiment d'être prêt pour rien. Et là, ça a été dur. Alors, on a eu derrière une réaction de la direction, bien sûr, tardive, mais une réaction, qui font qu'aujourd'hui, ça va un peu mieux. Mais comme le disait mon prédécesseur à ce micro, l'hôpital, c'est beaucoup de bâtiments qui ne sont plus aux normes. Le dernier bâtiment, qui s'appelle le bâtiment Madeleine-Bresse, qui est le plus récent, on avait entre 28 et 29 degrés dans les couloirs. Le Fontenoy, qui est un vieux bâtiment, on était jusqu'à 36 dans les couloirs. Donc autant vous dire que dans les chambres des patients, c'était compliqué. Et ça a demandé beaucoup d'énergie aux soignants pour que le confort des patients ne soit pas trop altéré et qu'on n'engendre pas, sur des pathologies déjà présentes, une aggravation de ces pathologies.
Vous dites qu'il y a eu quand même une aide de la direction à un moment donné, il y a quand même eu une amélioration?
Il y a eu une amélioration. Alors, tardive. Et d'ailleurs, une réunion avec le représentant de la cellule du plan blanc. Et ça ne s'est pas très bien passé, parce qu'en fait, on a eu, nous, le reproche de nous être adressés aux médias parce que les agents étaient en colère. Et notre rôle, c'était de dire ce qui se passait réellement. Visiblement, ça n'a pas été très bien accepté par la direction et par ce monsieur qui est responsable de la cellule du plan blanc. Ceci dit, derrière, en toute honnêteté, à ce jour, il y a eu une réaction. Ce qu'on reproche, si vous voulez...
Quelle réaction, si vous pouvez préciser
La réaction, mise en place de beaucoup plus de ventilateurs, mise en place de climatisateurs. Ça a été une chose importante. On a beaucoup œuvré aussi pour que l'hydratation notamment en eau fraîche, soit suffisante pour, alors certes les patients, mais en ce qui nous concerne, pour les gens qui y travaillent, puisque au départ, on a eu un souci avec pas assez de ventilateurs, pas assez de climatisation et pas assez de brumisateurs.
Pas assez d'eau ? Est-ce que vous aviez suffisamment d'eau
Au départ, non, on a sous-estimé. Et si vous voulez, les soignants qui étaient là pour se désaltérer tiraient de l'eau qui était tiède au robinet. Donc, bon, là, il y a eu une prise de conscience, je dirais, tardive, mais il y a des actions concrètes. Il y a eu aussi également des points de rafraîchissement de mis en place, c'est-à-dire que ce sont des salles climatisées où quand les collègues ne se sentent pas bien, ou ont besoin de se reposer, ils peuvent se retirer vers ces pièces climatisées pour avoir une pause efficace.
La canicule, donc vous l'avez expliqué, ça a aussi un impact directement sur les patients, même si vous avez essayé de réduire cet impact. Le fait, c'est que la canicule, pour vous, c'est aussi davantage de patients à prendre en charge ?
Bien évidemment. On a eu une montée en charge du nombre de patients. Et ce qui nous inquiète, c'est en fait, c'est le nombre de lits. Parce que les patients qui rentrent maintenant mobilisent des lits, en plus de ce qui est prévu. Et on sait qu'on manque de lits. Et la complexité du problème, c'est de réussir à faire sortir les gens. Parce que, de nouveau, si on reprend une canicule, de savoir où on va pouvoir mettre cette masse de gens qui arrivent souvent via le biais des urgences, et qu'on est obligé de prendre en charge. Sachant que quand vous avez quelqu'un qui arrive aux urgences avec une hyperthermie centrale, qui peut être mortelle, il faut être en capacité très rapidement de le refroidir, mais derrière...
Ça demande quel type de ressources justement de prendre en charge un cas d'hypothermie ? Hyperthermie, pardon. Oui, c'est vrai.
Oui, une hyperthermie. Bah, écoutez, quand on prend une hyperthermie maligne, c'est-à-dire qu'en gros, il nous faut entre 10 et 14 kilos de glace dans une baignoire pour refroidir très rapidement la personne, pour éviter que son cerveau souffre et qu'on aille vers un arrêt cardiaque, tout simplement. Et on a eu le souci, d'ailleurs, sur la canicule de juin, où on s'est retrouvé en rupture de stock de glace. Et c'était comme si vous vous retrouviez en rupture de stock d'un médicament, puisqu'on n'avait plus la potentialité à un certain moment de refroidir les gens. Donc la solidarité a joué, pour ne pas les nommer, puisqu'on n'a pas le droit de faire de pub, les magasins Auchan, et la patinoire, qui nous ont dépanné sur des volumes de glace pour pouvoir permettre de traiter les patients qui arrivaient aux urgences en hyperthermie.
Parce que sinon, vous n'auriez pas pu les traiter potentiellement.
Arrivé à un certain moment, on n'avait plus la production de glace nécessaire pour pouvoir les traiter.
Donc vous arriviez quand même à prendre en quelque sorte des mesures d'adaptation à l'échelle individuelle avec des partenaires. Tant que la direction n'avait pas répondu, vous vous adaptiez comme vous pouviez.
Alors, on s'adaptait comme on pouvait. Ça allait des collègues qui se mettaient des torchons d'eau glacée sur la nuque pour éviter de trop chauffer. Ça a été la mise en place de couvertures de survie. Couverture de survie qui porte bien leur nom, sur les vitres de l'hôpital pour éviter que ça chauffe de trop. Alors, si vous voulez, c'était un peu du bric et du broc. Et ça a mis aussi beaucoup en colère les collègues parce qu'en fait, on s'est retrouvé très rapidement, bien sûr, en rupture de stock de couverture de survie qui ne sont pas faites pour ça. Et en fait, ça a été la débrouille, quoi. Donc, bien heureusement, on a eu une réaction, comme je disais, de la direction à ce jour. Mais les collègues reste quand même en colère d'avoir dû subir en mai et en juin sans trop de préparation, beaucoup de désagréments, de fatigabilité, ce qui a pu entraîner également des arrêts de travail supplémentaires en période estivale. Et je rappelle que les collègues de l'hôpital, comme tout à chacun, partent en vacances l'été et que c'est vraiment un moyen très important pour eux de se recharger physiquement et psychologiquement. Et qu'avec la mise en place du plan blanc, on a une épée de Damoclès parce qu'en fait, si ça devenait plus grave, on peut nous empêcher, par exemple, de partir en congé.
Donc il y a un risque d'épuisement, en fait, du personnel de l'hôpital.
Carrément.
La direction, vous avez dans un premier temps répondu qu'elle répondait aux problèmes sur le long terme. Mais du coup, il y a des réponses, il y a une nécessité de réponse sur le court terme dans un premier temps.
Il y a toujours une réponse de nécessité sur le court terme, au moins pour l'humain, directement, sur l'impact direct. Maintenant, on ose espérer, puisque en fait toutes les prévisions qu'on peut nous mettre en avant vont vers la généralisation de canicules tous les ans. Et comme le disait également la personne qui était avant moi, il va falloir avoir dans les investissements une prise en compte de l'aménagement de nos bâtiments.
Donc on est sur une troisième canicule à l'heure où nous enregistrons cette interview le 9 juillet. Comment se sentent les agents en ce moment ? Est-ce qu'on en est déjà au stade de l'épuisement dont on parlait ?
Bah, écoutez, les effets de la mise en place des climatisateurs, de l'hydratation, des ventilateurs permettent globalement de se maintenir. Sauf qu'il est clair que l'épuisement actuel risque de se manifester, pas tout de suite, mais dans quelques semaines. Parce qu'en fait, là, mes collègues hospitaliers sont sur le front. De toute manière, on n'a pas le choix, parce que l'hôpital, on ne peut pas s'arrêter. C'est 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, que vous soyez dans les soins, en cuisine ou à la blanchisserie, et il faut que ça tourne. Donc, ce qu'on a peur, nous, c'est que pour l'instant, tout le monde tient la barre, et tant mieux, mais ce qu'on a peur, bah, c'est derrière, quoi. C'est après-demain, en fait.
Donc, si on résume, il y a une forme de répit pour l'instant grâce aux premières réponses apportées par la direction.
Tout à fait.
Mais vous ne voyez pas continuer tout l'été comme ça ?
Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que, si vous voulez, on va avoir un épuisement. On sait pertinemment déjà qu'au niveau de l'hôpital, les effectifs sont tendus. Et que si, en plus de ça, on vient sur un épuisement général, on sait que derrière, il n'y a pas beaucoup de monde pour nous remplacer. Donc, ça peut devenir inquiétant. Mais on va tenter d'être optimiste. On ne peut pas non plus demander l'impossible aux agents hospitaliers. Je veux dire, à un certain moment, on est des travailleurs comme les autres et on a aussi nos limites.
Depuis le début de cette canicule, est-ce que vous constatez déjà un nouvel afflux de patients anormal par rapport à...
Ah, clairement, de toute manière, entre le mois de mai, la canicule de juin où on a eu beaucoup plus de monde, oui. Oui, évidemment, il y a beaucoup plus de monde. Et c'est évident, puisque de toute manière, c'est du monde, d'une part, pendant la canicule, mais c'est souvent aussi du monde la semaine qui suit. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui résistent à la canicule, qui s'enferment chez eux et qui décompensent souvent la semaine d'après. Donc en fait, ça, c'est assez connu des services, donc on s'y prépare. Mais on ne peut jamais anticiper complètement les volumes qui risquent d'arriver.
Et donc, à raison d'une canicule toutes les deux semaines, si ça se poursuit sur ce rythme-là tout l'été, effectivement, il n'y aura pas vraiment de semaine de répit. Je vous remercie, Marc Gandon, secrétaire du syndicat Force Ouvrière du Centre Hospitalier du Mans. Merci beaucoup.
Merci à vous de m'avoir reçu.
L'initiative locale avec Charles Duplaize sur Radio Alpa.